Parcours intérieur, saison 2, le podcast qui vous dit tout sur la préparation mentale.
Le fait d'aller gagner, c'est gagner sur soi. C'est une quête de soi, c'est être capable d'aller au bout de son potentiel, de très bien se connaître. Et aussi, c'est d'aller découvrir chez soi quelque chose qu'on a peut-être caché et qu'on n'a pas utilisé encore. Et là, à partir du moment où l'athlète est dans cette quête de gagne sur soi, là, on peut dire qu'on apprend à gagner.
Gagner tout le temps, gagner la majeure partie du temps, ou bien développer un état d'esprit de gagnant. Est-ce cela apprendre à gagner? Et est-ce seulement possible dans ce sport si particulier qu'est le golf, où même les meilleurs joueurs du monde perdent, quoi qu'il arrive, plus souvent qu'ils ne gagnent? Ces questions, c'est avec Isabelle Inchauspé que nous allons les aborder aujourd'hui. Bonjour Isabelle.
Bonjour Christelle.
Vous êtes docteur en psychologie clinique et spécialiste de l'accompagnement de sportifs de haut niveau. Vous travaillez notamment avec Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-kayak. Et côté golf, vous avez accompagné, entre autres, Gladys Nocera, ancienne numéro 1 européenne. Ça tombe bien, car c'est avec elle que nous allons lancer ce podcast.
Alors moi, je pars du principe que tout le travail que tu fais, il dépend de l'objectif que tu t'es fixé. Donc en fait, l'objectif, il diffère selon toutes les personnes. Mais si effectivement ton objectif, c'est de gagner, eh ben alors tu mets en place les moyens pour aller chercher cette gagne. Donc quand tu t'entraînes, quand tu joues, tu t'occupes de tes moyens, donc des choses sur lesquelles tu t'appuies, des outils physiques, techniques, mentaux. Et ton objectif de gagne, il est de côté. Tu ne peux pas aller sur le parcours en te disant « faut que je gagne, faut que je gagne, faut que je gagne ». Il faut vraiment s'occuper d'abord du process pour ensuite atteindre ton objectif. En tout cas, moi, je fonctionnais comme ça et ça m'a permis d'en gagner quelques-uns quand même. Donc, je devais pas être loin de la réalité. Voilà, l'idée, c'est je veux gagner ça. Par conséquent, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver? Et voilà, et ensuite, bah, tu bosses. Et puis après, bah, forcément, c'est le sport et on n'est pas les seuls à vouloir gagner. Le plus important, c'est de s'occuper du process et de se donner à fond sur chaque shot. Et après, le résultat, il viendra forcément.
Gladys, qui a remporté 14 tournois sur le circuit européen, vient de nous faire part de ce qu'implique apprendre à gagner. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et est-ce que cela est réellement possible, Isabelle?
C'est une question clé ou qu'on entend très souvent dans la bouche des entraîneurs ou des parents, etc. Et est-ce qu'on peut apprendre à gagner? Alors, oui, mais à gagner quoi? J'ai envie de bien préciser cette notion de gagne que Gladys met en avant en disant « je voulais gagner », mais là où elle est maligne, c'est qu'elle n'a pas précisé ce qu'elle voulait gagner. Mais effectivement, oui, on veut aller chercher quelque chose, mais qui n'est pas de l'ordre du résultat du tournoi. Comme vous le précisiez dans l'introduction, on perd plus souvent dans le golf que l'on gagne, et puis il n'y a qu'un qui est en haut du podium. Voilà. En revanche, pour moi, le fait d'aller gagner, c'est gagner sur soi. C'est une quête de soi, c'est être capable d'aller au bout de son potentiel, de très bien se connaître, d'utiliser tout ce qu'on est capable d'utiliser en potentiel. Et aussi, et c'est là où c'est tout l'intérêt de l'entourage du golfeur, entraîneur, préparateur, mental, physique, tout ce que vous voulez, c'est d'aller découvrir chez soi quelque chose qu'on a peut-être caché et qu'on n'a pas utilisé encore. Et le sport, entre autres, mais on le retrouve aussi dans l'art, on le retrouve dans d'autres secteurs, va permettre d'aller gagner quelque chose de nous, de découverte, de potentiel, de savoir-être, de savoir-faire. Et là, à partir du moment où l'athlète est dans cette quête de gagne sur soi, là, on peut dire qu'on apprend à gagner.
Mais c'est un petit peu une confusion entre la culture de la gagne et la culture de la performance.
Non, vous vous trompez. Parce que l'idée, c'est que vous pensez que la gagne, c'est le résultat, en fait. C'est deux choses totalement différentes. La performance, telle que je la définis, et alors je ne suis pas toute seule, hein, bien évidemment, 25 ans d'expérience avec le très haut niveau m'oblige aussi à la définir comme ça, c'est la capacité à aller là où vous n'êtes jamais allé. Et c'est qui est totalement différent du résultat. Et souvent, l'amalgame que l'on fait dans la culture de la gagne, c'est en fait, on pense qu'on peut donner la culture du résultat. Sauf que le résultat, il ne dépend pas de vous.
Et donc, il faut revenir plutôt à cette notion de la performance. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que c'est de l'acquis ou c'est de l'inné?
Alors, je vais sûrement faire bondir des milliers de gens qui vont nous écouter, parce que je sais que le podcast est très écouté. Il y a 80, on va dire 10% d'inné. Et là, vous devrez me dire, ah bon, ou pourquoi? Mais en fait, l'inné, pour moi, c'est juste que il n'existe pas, et ne m'insultez pas de suite, hein, mais il n'existe pas d'athlètes de très haut niveau qui n'ont pas de failles personnelles dues à leur histoire personnelle de vie qui nous dépasse complètement. Alors, j'entends bien, je mets l'aspect technique physique de côté, c'est-à-dire vous pouvez avoir une faille, si vous, techniquement, physiquement, vous ne savez pas jouer au golf, vous n'allez pas être champion pour autant. Je pars du fait que ces athlètes savent jouer au golf.
Hein,
ils ont tout le moyen. Donc, pour vraiment que les gens qui nous écoutent fassent bien la différence. En revanche, si vous avez une personnalité qui, on pense, est équilibrée, entre guillemets, c'est-à-dire socialement très adaptée, qui va partout, qui trouve du plaisir autant à faire du piano qu'à jouer du golf qu'à être avec ses potes, ce genre de personnalité-là, pour moi, ne pourra pas faire du très haut niveau. Parce que pour faire du très haut niveau, c'est un coût de souffrance, d'efforts, d'entraînement, de répétition, de répondre à vos questions. Voilà, c'est extrêmement compliqué et difficile de progression et tout ce qu'on peut connaître du haut niveau, quel que soit le sport, golf ou pas golf. Et le golf, ce qui est particulier, c'est que ça dure très longtemps, donc il faut avoir une sacrée endurance mentale. Si vous ne le faites pas pour une bonne raison personnelle, de résoudre quelque chose qui en vous vous torture, vous ne le faites pas, en fait. Les efforts, vous ne les faites pas.
Et donc, vous parlez d'une espèce de faille, en fait, de déséquilibre que l'on a en soi.
Oui.
Mais est-ce que vous pouvez la définir ? Quelle doit être son ampleur véritable ? Comment est-ce que chaque personne, enfin chaque champion, peut avoir en lui ou en elle cette faille ?
Alors, c'est encore une très bonne question. Pour faire un peu de pédagogie, je sais que vous êtes tous parfaits, avec quelques imperfections, parce que c'est ce qu'on appelle des manques, en fait. On a des petits manques dans notre constitution personnelle. Et il s'avère que les athlètes de très haut niveau, on va dire qu'ils ont des manques un peu plus importants que les nôtres. Moi, j'appelle ça la théorie du gruyère. C'est-à-dire, on dit que le gruyère, il est bon quand les trous sont les plus importants. Et c'est exactement pareil pour un athlète de haut niveau. C'est qu'il a des manques tellement forts que derrière, ils ont de bonnes raisons de le faire. Et cette origine de ce manque est très personnelle. Elle peut être pour quelqu'un d'avoir perdu son père, de vouloir battre sa mère, et pour un autre, ça va vouloir juste dire je veux m'acheter une maison bleue et je ne l'ai jamais eue donc je suis frustrée, ou je dis n'importe quoi, j'ai envie de boire du coca, mais on l'a toujours interdit, donc si je gagne des sous, je pourrais boire du coca jusqu'à demain. Ça paraît dérisoire, mais en fait, la faille, elle est personnelle et le traumatisme. Pour quelqu'un, ça peut être très fort et pour l'autre, ça peut être le même traumatisme, ne sert à rien, et inversement. Donc, c'est une faille personnelle liée à ton histoire personnelle et la manière dont les gens, les jeunes athlètes notamment, le vivent.
Parce que sinon, en fait, ces athlètes de haut niveau ne pourraient pas s'astreindre à de tels entraînements, à de tels efforts.
Vous avez fait du golf, vous avez touché vos limites aussi.
Bien sûr.
Voilà. Et ces limites, elles sont peut-être dû à des aspects techniques, physiques, bien évidemment je peux l'entendre, mais si on met ça de côté aujourd'hui, c'est peut-être dû au fait que est-ce que vous aviez une bonne raison, encore, de pousser encore, d'y aller un peu plus, peut-être pas.
Et d'aller encore plus loin,
plus loin. De se remettre en question, d'être dans la douleur de l'entraînement, dans la recherche de la jouissance, parce que finalement, les athlètes de haut niveau, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Le jour J, avoir la jouissance dans le coup d'une victoire, dans le coup, la réalisation d'un coup, dans un putt qui rentre, etc. Est-ce que vous aviez, vous, assez d'énergie pour le faire tout le temps, aller le chercher tout le temps, progresser techniquement tout le temps, peut-être pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est juste qu'il faut bien se connaître pour savoir où est-ce qu'on peut aller au maximum de nous. Et là, on apprend à gagner. Là, on gagne.
Et sur la partie qui n'est pas innée et qui n'est donc pas liée à ce déséquilibre, concrètement, pour les licenciés qui nous écoutent, comment faire pour apprendre à être performant ?
Pour les licenciés qui nous écoutent, ils ne sont pas tous déséquilibrés comme un athlète de haut niveau. Il y en a quand même quelques-uns. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'ils commencent déjà à ne plus penser à aller au golf avec des potes pour jouer sous le par, pour aller chercher un score.
Oui, ne plus chercher le résultat.
Le résultat et le score. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Il faut qu'ils aient un peu la méthode du sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils fassent une petite introspection d'eux-mêmes très rapide, ça ne va pas leur coûter très cher, juste avant de prendre le départ ou à l'échauffement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, se poser la question, qu'est-ce qui aujourd'hui lui ferait plaisir de faire sur ce golf ? Quel coup il aimerait réaliser ? Quelle distance il aimerait faire ? Comment il aimerait peut-être ? Être plutôt dans le comment de ce qu'il a envie de réaliser le jour J. Et du coup, ça peut changer s'il rejoue le dimanche d'après, parce qu'on n'est pas dans la même mentalité, c'est pas le même golf, il fait pas le même temps. Donc c'est toujours très varié. Et en même temps, en faisant ça, vous oubliez le résultat. Vous commencez à vous centrer sur vous. Et quand vous réalisez ce que vous avez imaginé comme coup, par exemple, le plaisir, il est tel qu'on a envie d'y retourner. C'est une drogue. Hein. On se dit, ah, c'était vraiment chouette. Je veux refaire pareil. Et ils font 18 trous en s'astreignant du résultat. Et sûrement, en faisant ça, ils vont mieux jouer. Et quand ils vont regarder leur carte de score, ils vont dire, eh merde, j'ai mieux joué qu'avant. Et là, on cultive cette gagne-là.
Et donc, vous préconisez de vraiment faire un état des lieux de son propre jeu, oui. Mais tout en gardant la notion de plaisir. Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir quand je vais sur le parcours ?
C'est que ça. Et c'est très compliqué dans notre culture, parce qu'on a envie de détente, etc. Mais aller chercher du plaisir, ça demande aussi un effort. C'est-à-dire, si vous dites aujourd'hui, faire plaisir, c'est faire des drives droite-gauche toute la journée, ça va vous demander de vous concentrer dessus, de faire attention à ce que vous faites techniquement, etc. C'est un plaisir quand vous allez le réaliser, mais ça, en amont, ça demande un effort, en fait. Et c'est ce duo-là, effort-plaisir, avoir le plaisir sans effort, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont goûté, je ne connais pas. Mais dans le sport, cette paire-là, elle est vraiment indissociable. Il faut que les joueurs de club apprennent à faire l'effort d'être centrés sur eux pour avoir le plaisir de réaliser ce qu'ils ont imaginé. En fait. Et là, ils vont trouver ce que fait un athlète de haut niveau à sa façon. Ils vont commencer à toucher cette notion de plaisir qu'ils vont retrouver comme une drogue, qu'ils vont vouloir retrouver, qu'ils vont encore vouloir retrouver. On y retourne.
Oui. Et donc là, ils seront beaucoup plus dans la performance et le résultat viendra
bien après. Il le mesurera au 18. Mmh. Au 18, vous regardez vos scores et dire « Ah, ouais, oui, j'ai fait ça là, effectivement. » Mais tu le mesures qu'à la fin, en fait. Le résultat est la conséquence de ta performance.
Je pense qu'il faut voir la performance comme un style de vie un peu. Se l'approprier à sa manière. Et après, il faut essayer de le vivre au quotidien. Donc, pas que dans le golf, mais dans tout. Si je suis pas au clair dans ce que je veux dans ma vie, je pense que j'arriverai pas à faire ce que je veux dans le golf non plus. En soi, dire je veux être une championne, je veux gagner des majeurs, je veux être numéro 1 mondial, tout le monde peut se le dire, ça. Mais après, de quelle manière je veux faire ça ? Genre, quelle vie je veux avoir ? Est-ce que je veux avoir une famille ? Est-ce que je veux vivre aux US ? Est-ce que je veux vivre en Europe ? Mon staff, mes relations, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, plein de questions qui sont plus dures à déterminer, je pense, pour décider de quelle championne je veux être au-delà de juste être une championne.
La jeune joueuse d'équipe de France, Gala Dumez, vient de nous expliquer, selon elle, les clés de la performance et l'importance de se réaliser soi-même, d'être en accord avec soi-même. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie vraiment ?
Elle l'explique bien, hein, en fait. C'est qu'on sous-entend dans ce qu'elle dit à son jeune âge que le golf n'est qu'un instrument pour se réaliser. Et que ça demande deux choses, se réaliser. Être au clair sur, elle le dit très bien, la personne qu'elle veut être et donc la championne qu'elle veut être. Et là, on n'est pas dans du faire golf, on n'est pas dans de la technique, on est vraiment dans la réalisation de soi. Et une fois qu'on a identifié ça, il va falloir que le golf soit une traduction d'elle, en fait. C'est une continuité. Donc, elle va jouer au golf comme elle est. Et cette adéquation et cet alignement va faire qu'elle va, pour le coup, elle trouver du plaisir intense, parce que comme elle joue bien, donc voilà, ça va donner une intensité de plaisir, une jouissance extrême. Et là, elle va commencer à être la championne qu'elle veut être, et donc sûrement obtenir le résultat qu'elle pourra obtenir au maximum d'elle-même, quoi. Voilà.
Mais donc, c'est impératif d'être aligné avec soi-même.
C'est clé.
Mais finalement, c'est une sorte de développement personnel.
C'est pas une sorte, c'est du développement. On ne fait pas du sport ou de la musique ou de la peinture par hasard. On essaye de trouver des moyens d'expression et je pense que le sport et le golf, comme tous les autres sports, est un moyen d'expression. Parce que qu'est-ce qu'on cherche tous dans ces activités ? C'est à mieux se connaître, à découvrir des parts de soi, à libérer des semaines qui ont été pourries, à libérer une émotion, à toucher une émotion qu'on ne touche pas ailleurs. Voilà, un plaisir qui est rare sur un sport, on ne le touche pas forcément au quotidien. Donc oui, c'est une réalisation de soi, une découverte de soi, un alignement avec soi-même, parce qu'on apprend aussi à être bien aligné pour pouvoir vivre ce qu'on veut. Si vous arrivez à vivre ça dans le sport et dans le golf, dans votre cas, si vous arrivez à le reproduire dans la vie, je pense que votre performance de vie sera meilleure et les résultats aussi.
Et c'est aussi identifier ses véritables désirs.
Ah oui, c'est indispensable.
C'est indispensable.
Il faut savoir pourquoi, en fait.
Parce que c'est vrai que dans l'ouvrage que vous avez écrit « Désirer, c'est gagner », vous écrivez notamment « Savoir pourquoi on désire une victoire est la plus puissante arme qu'un être humain puisse manier ».
Oui. C'est, si vous savez pourquoi vous faites les choses, vous donnez un sens terrible à votre vie même en dehors du golf, je pense que tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce que je fous là ou à quoi ça sert? Quand vous avez identifié pourquoi vous jouez, vous identifiez pourquoi vous allez souffrir à l'entraînement, pourquoi vous allez accepter la frustration, les critiques des uns et des autres. Vous vous renforcez, vous devenez quelqu'un de très costaud, solide mentalement, capable de prendre, on va dire, tous les stress ou les angoisses que vous voulez de tout le monde, parce que vous savez que c'est pour vous presque votre survie, en fait. C'est presque une notion de survie. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez passer toutes les tempêtes. Mais dans le très haut niveau, pour ceux qui en côtoient, qui nous écoutent aujourd'hui, le sport est une question de vie, en fait. Ce n'est pas une question de résultat, c'est de la vie, en fait.
Et quel est le rôle de la confiance en soi dans cet apprentissage?
Alors, c'est un mot, confiance en soi, que j'utilise très peu, parce que moi, je parle plutôt de conscience. Au vu de tout ce qu'on a dit précédemment, plus on a conscience de qui on est, plus on va libérer qui on est, et là, on va avoir confiance en soi. Parce qu'en fait, la confiance, c'est assez simple, c'est le regard que les gens portent sur vous. Si vous dégagez quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas bien ou perturbé, on va vous renvoyer que vous n'êtes pas bien et perturbé. Et puis, vous allez ressentir un manque de confiance. C'est souvent ce qu'on nous dit. « J'ai pas confiance en moi, on me renvoie ça. » Et en fait, si vous êtes conscient de vos qualités alignées et que vous posez ça, on va vous regarder et dire « Ouais, t'es quand même très solide. »
Et cette conscientisation justement du désir dont vous parlez, elle me permet de rebondir sur la différence entre être ambitieux et être prétentieux, ce qui est généralement très mal compris. C'est quoi la distinction?
Alors, on a le droit d'être ambitieux, et je vais le dire gentiment, et c'est pénible d'être prétentieux. Ambitieux, ça veut dire juste oser dire qu'on veut vivre quelque chose, le dire à voix haute, le partager, et d'y aller vers. Ça, c'est la vraie ambition. La prétention, ça va être de dire un peu ce que dit Gala, finalement, c'est de dire « j'ai envie d'y aller », ça, c'est facile de le dire. Et puis, vous ne vous donnez aucun moyen adapté pour le faire, et puis vous allez dire dans le sport « je suis blessé », ou « il fait mauvais dans le golf, j'y vais pas », ou « l'entraîneur, il est nul », ou « mentalement, j'ai pas été bien préparé », vous allez me trouver un milliard d'excuses qui fait que vous n'allez pas y arriver. Mais vous avez la prétention de dire « ben oui, je vais gagner le tournoi » ou « je fais partie des meilleurs », sans vous en donner les moyens. Donc c'est deux choses pour moi qui sont assez
très différentes.
Et puis il faut surtout décomplexer, si vous me permettez, les jeunes, de cette notion ambition-prétention. Dire qu'on a envie d'être bon et d'être heureux dans le sport, c'est une vraie ambition. Dire qu'on va gagner un tournoi sans en donner les moyens, c'est de la prétention.
Ça n'a rien à voir.
Rien à voir.
On entend souvent qu'apprendre à perdre, Isabelle, c'est apprendre à gagner. Est-ce que la défaite, c'est donc un passage obligé pour apprendre à être performant?
Alors, obligé, non. Je rejoins un discours d'Mbappé qui disait qu'il n'aime pas perdre, c'est pas obligé de perdre. Après, vous êtes obligé d'accepter la défaite, parce que vous ne pouvez pas gagner tout le temps. Donc c'est assez naturel dans le sport de perdre. En revanche, se réconforter en disant « c'est bien de perdre parce qu'il faut passer par là », non, il ne faut pas. Il faut passer par le processus de gagne. Et à l'intérieur du processus de gagne, vous prenez de temps en temps quelques claques. Parce qu'il y en a une autre en face de vous qui veut gagner, aussi, qui a le même process, et il vous empêche d'y aller. Et c'est ça, la défaite. Mais dire qu'il le faut passer, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour cette question négative, parce qu'en plus, ça amène des images négatives, des sentiments négatifs, de la frustration, des engueulades avec tout le monde. Si on peut l'éviter, évitez-le. Ouais.
Et c'est vrai qu'on a l'impression aussi, parfois, que certains athlètes ont peur, ont une espèce de peur, et s'inscrivent dans une espèce de défaite systématique. Ils ont presque une sorte de syndrome de l'échec. C'est vrai, ça?
Syndrome de l'échec ou peur de gagner?
Oui, c'est une très bonne question.
C'est ça qu'il faut se poser comme, oui. comme question. Là, parce que la peur de gagner est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Parce que gagner sur soi, ça veut dire un bon résultat. Et quand tu as un bon résultat, on va attendre de toi que tu en fasses un autre la semaine d'après, encore un autre, encore un autre. Et donc, on rentre dans un process où, finalement, on se dit la pression, là, elle est lourde parce qu'on vous accorde très peu de variations ou très peu de baisse de niveau, puis quand vous baissez, on vous tombe dessus. Et je pense que cette peur de la gagne est plus importante que l'échec, parce que l'échec, on dit, t'as le droit de perdre, finalement, surtout en France. On dit, bon, perdre, c'est pas grave. Mais t'as gagné la semaine dernière et tu finis 40e cette semaine, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Et ça, je pense que c'est une peur beaucoup plus fréquente que la peur de l'échec. Et donc, il faut bien identifier, pour les éducateurs des clubs, là, ne vous trompez pas de combat, en fait. Donnez leur envie de gagner sur eux, pour avoir un bon résultat, mais ne travaillez pas sur « t'as le droit de perdre », la défaite, elle viendra, vous aurez le temps de l'inclure dans le process de gagne, mais la peur de perdre, moi j'y crois moyen, je pense qu'on a plus peur de gagner en France en fait.
Et pour apprendre à être performant, jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'il faut tout sacrifier, sa vie sociale? Est-ce qu'il faut quelque part se déshumaniser?
Au contraire. Alors, il faut aller très loin dans la perte de haut niveau, mais se déshumaniser, non. Parce que très loin dans le sens où toute votre vie, H24, elle tourne autour du sport. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vivre tous les jours à mon entraînement, dans mes compètes, dans mes voyages, etc. Donc, ça va très, très loin. En revanche, dans la notion de déshumaniser, non, parce que vous êtes dans la connaissance de vous. Donc, vous ne pouvez pas apprendre tout seul. Vous êtes obligé de poser des questions, de créer du lien, d'avoir des gens autour de vous. D'ailleurs, un athlète de très haut niveau, il a autour de lui énormément de gens. Vous voyez dans le golf, dans le tennis, dans les sports individuels. On dit c'est un sport individuel, mais en fait, il y a une équipe, une armée derrière eux, souvent, parce que tu as besoin de pleurer, tu as besoin de râler, tu as besoin de comprendre ce qui se passe, de poser des questions à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas déshumanisé du tout, c'est juste centré sur égoïstement ce que les athlètes veulent vivre, en fait. C'est pour ça qu'ils sont très égocentrés, très égoïstes, parce qu'ils vont chercher quelque chose de profond chez eux, ils veulent le réaliser, et toute leur vie s'est tournée autour de ça, en fait.
Donc, pour vous, on ne peut pas aller trop loin dans cette quête d'apprendre à être performant.
C'est-à-dire ?
Est-ce que finalement, ça peut devenir compulsif ? On peut avoir un... Bon, vous parliez de la faille précédemment, on revient à ça, alors,
oui,
finalement.
Oui, tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps. C'est ce qui nous caractérise, ce qui fait votre caractère, ce qui fait que vous êtes souriante aujourd'hui, que demain vous allez faire la gueule parce qu'il y a un truc qui ne vous va pas. Voilà, donc ça fait partie de nous, ça nous caractérise. Il faut qu'on l'identifie, qu'on l'accepte et qu'on l'utilise comme étant un point fort pour pouvoir avancer. Et dans les sélections d'athlètes qui se fait dans le monde entier, un peu moins en France, parce que mon discours va choquer beaucoup de gens, j'en suis consciente, mais je l'assume. On sélectionne au physique, bien évidemment, mais une fois que ça c'est fait, savoir ceux qui vont faire du haut niveau ou pas, on regarde celui qui a la plus grosse faille personnelle, celui qui a une souffrance à régler, en fait. Et celui-là, vous pouvez vous dire qu'à l'entraînement, il va y aller. Si techniquement, il a les moyens, il va pouvoir se réaliser et équilibrer sa faille, avec ou via le sport, ou via la musique, ou via ce que vous voulez. Mais la vraie sélection du haut niveau, elle se fait par l'identification de la faille. Vous n'avez qu'à demander au papa de Serena Williams, il va vous l'expliquer super bien. Parce que lui, il a créé la faille volontairement, noire, ghetto,
bien sûr, bien sûr.
L'identité, il a créé cette faille-là. Il s'avère que les deux filles ont un niveau physique et technique qui a été exceptionnel. Donc voilà, quand vous mettez tout ça en aligné, ils ont travaillé énormément. Tout
ce qu'on connaît, il a surfé là-dessus.
Il a surfé là-dessus, jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à, et qui continue à surfer, parce que la sœur de Serena continue à jouer, quand même. Et Serena s'exprime de la même façon dans le business aujourd'hui qu'elle l'a fait sur le terrain. Décomplexée de tout, parce qu'elle vit sa faille.
Mais finalement, Isabelle, quels sont les véritables objectifs, bien au-delà du sport, pour ces athlètes ?
Pour ces athlètes, c'est des toxicomanes du bonheur, en fait. C'est-à-dire, dès qu'ils touchent un moment de jouissance où il y a ce bonheur extrême-là, une fois que tu l'as touché, tu te dis ça, je ne peux pas le quitter, toute ma vie je vais le chercher. Ce qui fait des grosses difficultés dans la reconversion des sportifs de haut niveau, parce qu'une fois qu'ils ont arrêté leur sport et leur moyen de toucher ça, où est-ce qu'ils vont aller ? Il faut trouver un secteur, et qui est au-delà de « j'ai un salaire, une maison, etc. C'est » c'est quel secteur de vie je vais pouvoir exploiter aujourd'hui qui va me ramener cette jouissance-là ?
Oui, justement, pour parler de cette jouissance et de ces victoires, pourquoi est-ce que la perception de la victoire, elle est si agréable, finalement ?
La perception ou le ressenti ?
Le ressenti.
Ouais. parce que quand vous avez gagné, c'est un moment où vous avez été vous-même sans aucune barrière. Rien vient vous perturber. Le regard de l'autre, vous en foutez. Vos défauts techniques, ça passe au-dessus. Comme si on vous libérait d'un carcan, vous êtes léger. Vous êtes uniquement à ce moment-là, vous-même, plein pot. Et des moments où on est soit à 120% dans la vie, on le sait tous, je pense que ça ne s'est pas arrivé 100 fois par jour. L'avantage des sportifs de haut niveau, c'est qu'eux, ils peuvent le vivre au moins une fois par jour. Contrairement à nous, où on rame pour le vivre au moins une fois dans l'année, quoi. Voilà. Et ça fait toute leur différence, en fait.
Et pour nos sociétés aussi actuelles, pourquoi est-ce que c'est si important, justement, cette notion d'être un vainqueur, d'être un champion, d'être un gagnant ?
Ça renvoie quand même à une image de quelqu'un qui a réussi, de dire « je suis vainqueur, je suis... » Mais en fait, si vous me permettez, je pense que la réussite par rapport à la performance d'un athlète, ce n'est pas la bonne association, alors que le monde, on dit « il a réussi, il a gagné ». Mais non, parce que moi, j'ai connu des athlètes qui ont été champions olympiques, et je ne les citerai pas, qui sont champions olympiques, et on dit « ouais, super, t'es champion olympique ». Et dans le débriefing qu'on fait, ils se sont emmerdés pendant leur compétition, ils n'ont pas été eux-mêmes, ils sont malheureux.
Mais ce n'est pas la même définition.
Et voilà, exactement. Donc, ce n'est pas du tout la réussite du résultat, ne correspond pas forcément à la performance et au plaisir ou à la jouissance que l'athlète a. Et on peut très bien avoir une médaille en étant à côté de ses pompes, mais juste notre niveau nous a permis de le faire, mais ce que l'athlète vit n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'il veut vivre, ce qui l'oblige aussi à revenir. On se demande pourquoi un Federer, un Nadal, un Djokovic, ils y retournent.
Oui, alors qu'aux yeux de la société,
ils ont tout réussi. Mais qu'est-ce que tu fais ? En fait, ils sont drogués à la jouissance que ça procure. Et puis, trouver ça ailleurs, c'est compliqué. Et peut-être qu'ils ont eu des victoires à des moments où ils n'ont pas vécu cette jouissance-là, donc ils retournent pour la trouver.
Et si on a appris, justement, grâce à cet apprentissage vers la performance à nous connaître, est-ce qu'il est possible de s'arrêter là ? Ou est-ce que finalement, après une carrière sportive, on est toujours dans cette logique de performance ? On la recherche ?
On la recherche. C'est ce que je vous disais au tout début, c'est addictif en fait. Une fois que vous y avez goûté, si vous y retournez pas, il y a un côté un peu qu'on note hein, chez certains athlètes de haut niveau, il y a des petites morts, on l'a entendu, notamment avec des blessures, même sans faire un arrêt de carrière, mais il y a des gens qui ont des blessures assez graves, où ils passent un an et demi sans pouvoir s'exprimer dans leur sport, ils vous disent, je crois que c'était David Douillet qui l'avait bien expliqué avec son accident de moto, il avait dit, c'est une petite mort le temps que je me remette et que je puisse retrouver ce que j'étais sur le tatami, c'est une petite mort. Mais donc une fois qu'on a goûté, oui, alors pour ceux qui nous écoutent, je suis désolée, c'est à vie. Voilà, vous avez le devoir d'aller le chercher tout le temps.
Oui, en fait, c'est une façon de donner du sens. Ils ont toujours besoin de donner du sens.
Et oui, profitons-en pour peut-être un peu s'inspirer d'eux. C'est-à-dire que c'est tellement bien de donner du sens, ça donne tellement d'énergie, ça procure tellement de plaisir. Oui, c'est dur, oui, des fois on a de la frustration, mais nous aussi on en a. Donc autant donner du sens aussi à nos frustrations, à nos échecs, que ça nous serve encore plus en fait.
Merci Isabelle.
Avec grand plaisir.
On aura compris que le chemin de la réussite est avant tout lié à la notion de performance et non pas de résultat. Pour y arriver, pour nous les amateurs, il faut avant tout mieux se connaître et rechercher ce qui nous procure du plaisir pour aller au bout de nos capacités. Pour terminer, j'aimerais citer cette phrase de votre ouvrage que je recommande vivement et que je trouve lumineux, intitulée « Désirer, c'est gagner », paru en 2005 aux éditions Plomb. Voici ce que vous écrivez. « Comme les sportifs de haut niveau, nous pouvons devenir performants en recherchant tout simplement notre propre forme d'excellence. » Prenez soin de vous et bon parcours intérieur.